Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revoici donc ensemble dans Lectures en liberté pour la suite du roman de Alain Fournier, Le Grand Mône. Et nous reprenons l'histoire au moment où le narrateur découvre le cahier du Grand Mône et il espère son secret. Et pourtant, à la tombée de la nuit, nous voici encore tous les deux marchant lentement l'un près de l'autre sur le gravier des Tuileries. Elle me raconte son histoire, mais d'une façon aussi enveloppée que je comprends mal. Elle dit « mon amant » en parlant de ce fiancé qu'elle n'a pas épousé. Elle le fait exprès, je pense, pour me choquer et pour que je ne m'attache point à elle. Il y a des phrases d'elle que je transcris de mauvaise grâce. « N'ayez aucune confiance en moi, dit-elle, je n'ai jamais fait que des folies. J'ai couru les chemins toute seule. » J'ai désespéré mon fiancé, je l'ai abandonné parce qu'il m'admirait trop. Il ne me voyait qu'en imagination et non point tel que j'étais. Or, je suis pleine de défauts. Nous aurions été très malheureux. À chaque instant, je la surprends en train de se faire plus mauvaise qu'elle n'est. Je pense qu'elle veut se prouver à elle-même qu'elle a eu raison, jadis, de faire la sottise dont elle parle, qu'elle n'a rien à regretter et n'était pas digne du bonheur qui s'offrait à elle. Une autre fois. « Ce qui me plaît en vous, m'a-t-elle dit en me regardant longuement, ce qui me plaît en vous, je ne puis savoir pourquoi, ce sont mes souvenirs. » Une autre fois. « Je l'aime encore, disait-elle, plus que vous ne pensez. » Et puis soudain, brusquement, brutalement, tristement. « Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous m'aimez vous aussi, vous allez me demander ma main ?» J'ai balbutié. Je ne sais pas ce que j'ai répondu. Peut-être ai-je dit oui. Cette espèce de journal s'interrompait là. Commençaient alors des brouillons de lettres illisibles, informes, raturées, précaires fiançailles. La jeune fille, sur la prière de Mône, avait abandonné son métier. Lui s'était occupé des préparatifs du mariage. Mais sans cesse repris par le désir de chercher encore, de partir encore sur la trace de son amour perdu, il avait dû sans doute plusieurs fois disparaître. Et dans ses lettres, avec un embarras tragique, il cherchait à se justifier devant Valentine. Puis le journal reprenait. Il avait noté des souvenirs sur un séjour qu'ils avaient fait tous les deux à la campagne, je ne sais où. Mais chose étrange, à partir de cet instant, peut-être par un sentiment de pudeur secrète, le journal était rédigé de façon si hachée, si informe, griffonné si hâtivement aussi, que j'ai dû reprendre moi-même et reconstituer toute cette partie de son histoire. 14 juin. Lorsqu'il s'éveilla de grand matin dans la chambre de l'auberge, le soleil avait allumé les dessins rouges du rideau noir. Des ouvriers agricoles dans la salle du bas parlaient fort, en prenant le café du matin. Il s'indignait en phrases rudes et paisibles contre un de leurs patrons. Depuis longtemps, sans doute, Mône entendait dans son sommeil ce calme bruit, car il n'y prit point garde d'abord. Ce rideau semé de grappes rougies par le soleil, ces voix matinales montant dans la chambre silencieuse, tout cela se confondait dans l'impression unique d'un réveil à la campagne au début de délicieuses grandes vacances. Il se leva, frappa doucement à la porte voisine, sans obtenir de réponse, et l'entr'ouvrit sans bruit. Il aperçut alors Valentine et comprit d'où lui venait tant de paisible bonheur. Elle dormait, absolument immobile et silencieuse, sans qu'on l'entendît respirer, comme un oiseau doit dormir. Longtemps, il regarda ce visage d'enfant aux yeux fermés, ce visage si quiet qu'on eût souhaité ne l'éveiller et ne le troubler jamais. Elle ne fit pas d'autre mouvement pour montrer qu'elle ne dormait plus que d'ouvrir les yeux et de regarder. Dès qu'elle fut habillée, Maune revint près de la jeune fille. « Nous sommes en retard, » dit-elle. Et ce fut aussitôt comme une ménagère dans sa demeure. Elle mit de l'ordre dans les chambres, brossa les habits que Maune avait portés la veille, et quand elle en vint au pantalon, se désola. Le bas des jambes était couvert d'une boue épaisse. Elle hésita, puis, soigneusement, avec précaution, avant de le brosser, elle commença par râper la première épaisseur de terre avec un couteau. C'est ainsi, dit Maune, que faisaient les gamins de Sainte-Agathe quand ils s'étaient flanqués dans la boue. Moi, c'est ma mère qui m'a enseigné cela, dit Valentine. Et telle était bien la compagne que devait souhaiter, avant son aventure mystérieuse, le chasseur et le paysan qu'était le grand Maune. 15 juin. À ce dîner, à la ferme, où, grâce à leurs amis qui les avaient présentés comme mari et femme, ils furent conviés à leur grand ennui, elle se montra timide, comme une nouvelle mariée. On avait allumé les bougies des deux candélabres à chaque bout de la table couverte de toile blanche, comme à une paisible noce de campagne. Les visages, dès qu'ils se penchaient sous cette faible clarté, baignaient dans l'ombre. Il y avait, à la droite de Patrice, le fils du fermier, Valentine, puis Maune, qui demeura taciturne jusqu'au bout, bien qu'on s'adressât presque toujours à lui. Depuis qu'il avait résolu, dans ce village perdu, afin d'éviter les commentaires, de faire passer Valentine pour sa femme, un même regret, un même remords le désolait. Et tandis que Patrice, à la façon d'un gentilhomme campagnard, dirigeait le dîner, « C'est moi, » pensait Maune, « qui devrais ce soir, dans une salle basse comme celle-ci, une belle salle que je connais bien, présider le repas de mes noces. » Près de lui, Valentine refusait timidement tout ce qu'on lui offrait. On eût dit une jeune paysanne. À chaque tentative nouvelle, elle regardait son ami et semblait vouloir se réfugier contre lui. Depuis longtemps, Patrice insistait vainement pour qu'elle vidât son verre. Lorsqu'enfin Maune se pencha vers elle et lui dit doucement « Il faut boire, ma petite Valentine. » Alors, docilement, elle but. Et Patrice félicita en souriant le jeune homme d'avoir une femme aussi obéissante. Mais tous deux, Valentine et Maune, restaient silencieux et pensifs. Ils étaient fatigués, d'abord. Leurs pieds trempés par la boue de la promenade étaient glacés sur les carreaux lavés de la cuisine. Et puis, de temps en temps, le jeune homme était obligé de dire « ma femme »,« Valentine, ma femme ». Et chaque fois, en prononçant sourdement ce mot, devant ces paysans inconnus dans cette salle obscure, il avait l'impression de commettre une faute. 17 juin. L'après-midi de ce dernier jour commença mal. Patrice et sa femme les accompagnèrent à la promenade. Peu à peu, sur la pente inégale couverte de bruyère, les deux couples se trouvèrent séparés. Maune et Valentine s'assirent entre les genévriers dans un petit taillis. Le vent portait des gouttes de pluie et le temps était bas. La soirée avait un goût amer, semblait-il, le goût d'un tel ennui que l'amour même ne le pouvait distraire. Longtemps, ils restèrent là, dans leur cachette, abrités sous les branches, parlant peu. Puis le temps se leva, il fit beau. Ils crurent que maintenant tout irait bien, et ils commencèrent à parler d'amour. Valentine parlait, parlait. « Voici, disait-elle, ce que me promettait mon fiancé comme un enfant qu'il était. Tout de suite, nous aurions eu une maison comme une chaumière perdue dans la campagne. Elle était toute prête, disait-il. Nous y serions arrivés comme au retour d'un grand voyage le soir de notre mariage, vers cette heure-ci qui est proche de la nuit. Et par les chemins, dans la cour, cachés dans les bosquets, des enfants inconnus nous auraient fait fête criant « Vive la mariée !» Quelle folie, n'est-ce pas? Maun, interdit, soucieux, l'écoutait. Il retrouvait dans tout cela comme l'écho d'une voix déjà entendue. Et il y avait aussi dans le ton de la jeune fille, lorsqu'elle contait cette histoire, un vague regret. Mais elle eut peur de l'avoir blessé. Elle se retourna vers lui avec élan, avec douceur. « À vous, dit-elle, je veux donner tout ce que j'ai. Quelque chose qui a été pour moi plus précieux que tout, et vous le brûlerez. » Alors, en le regardant fixement d'un air anxieux, elle sortit de sa poche un petit paquet de lettres qu'elle lui tendit. Les lettres de son fiancé. « Ah, tout de suite !» Il reconnut la fine écriture. Comment n'y avait-il jamais pensé plus tôt? C'était l'écriture de Franz, le bohémien, qu'il avait vu jadis sur le billet désespéré laissé dans la chambre du domaine. I hear mariachi static on my radio. The tubes, they glow in the dark. And I'm there with her in Ensenada. And I'm here in Echo Park. Carmelita, hold me tighter. I think I'm sinking down. And I'm all strung out on hair. Of town. Yeah, I'm sitting here playing solitaire with my pearl-handled deck. The county won't give me no more methadone. They cut off your welfare check. Carmelita, hold me tighter. I think I'm sinking down, and I'm all strung out on heroin on the outskirts of town.
Hold me tighter. I think I'm sinking down, and I'm all strung out on heroin on the outskirts of town. Carmelita, hold me tighter. I think I'm sinking down, and I'm all strung.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Nous voici donc de nouveau ensemble, après ce moment musical, pour la suite de ce roman de Alain Fournier, Le Grand Mône. Il marchait maintenant sur une petite route étroite entre les pâquerettes et les foins éclairés obliquement par le soleil de 5 heures. Si grande était sa stupeur que Mône ne comprenait pas encore quelle déroute pour lui tout cela signifiait. Il lisait parce qu'elle lui avait demandé de lire. Des phrases enfantines, sentimentales, pathétiques. Celle-ci dans sa dernière lettre. « Ah, vous avez perdu le petit cœur impardonnable, petite Valentine, mais que va-t-il nous arriver? Enfin, je ne suis pas superstitieux. » Mône lisait à demi aveuglé de regret et de colère, le visage immobile mais tout pâle, avec des frémissements sous les yeux. Valentine, inquiète de le voir ainsi, regarda où il en était et ce qui le fâchait ainsi. « C'est, expliqua-t-elle très vite, un bijou qu'il m'avait donné en me faisant jurer de le garder toujours. C'était là de ses idées folles. » Mais elle ne fit qu'exaspérer Mône. « Folle ? » dit-il en mettant les lettres dans sa poche. « Pourquoi répéter ce mot ? Pourquoi n'avoir jamais voulu croire en lui ? Je l'ai connu. C'était le garçon le plus merveilleux du monde. »« Vous l'avez connu ? » dit-elle au comble de l'émoi. « Vous avez connu Franz de Galais ?»« C'était mon meilleur ami. C'était mon frère d'aventure. Et voilà que je lui ai pris sa fiancée. » « Ah » poursuivit-il avec fureur, « quel mal vous nous avez fait, vous qui n'avez voulu croire à rien. Vous êtes la cause de tout. C'est vous qui avez tout perdu, tout perdu. » Elle voulut lui parler, lui prendre la main, mais il la repoussa brutalement. « Allez-vous-en, laissez-moi. » « Eh bien, s'il en est ainsi, » dit-elle, le visage en feu, bégayant et pleurant à demi, « je partirai en effet. Je rentrerai à Bourges, chez nous, avec ma sœur. » Et si vous ne revenez pas me chercher, vous savez, n'est-ce pas, que mon père est trop pauvre pour nous garder. Eh bien, je repartirai pour Paris, je battrai les chemins comme je l'ai déjà fait une fois. Je deviendrai certainement une fille perdue, moi, qui n'ai plus de métier. Et elle s'en alla chercher ses paquets pour prendre le train, tandis que Mône, sans même la regarder partir, continuait à marcher au hasard. Le journal s'interrompit de nouveau. Suivaient encore des brouillons de lettres, lettres d'un homme indécis, égaré. Rentré à La Ferté d'Anguillon, Mône écrivait à Valentine, en apparence pour lui affirmer sa résolution de ne jamais la revoir et lui en donner des raisons précises, mais en réalité peut-être pour qu'elle lui répondît. Dans une de ses lettres, il lui demandait ce que, dans son désarroi, il n'avait pas même songé d'abord à lui demander. Savait-elle où se trouvait le domaine tant cherché? Dans une autre, il la suppliait de se réconcilier avec Franz de Galais, lui-même se chargeait de le retrouver. Toutes les lettres dont je voyais les brouillons n'avaient pas dû être envoyées. Mais il avait dû écrire 2 ou 3 fois sans jamais obtenir de réponse. Ça avait été pour lui une période de combat affreux et misérable, dans un isolement absolu. L'espoir de revoir jamais Yvonne de Galais s'étant complètement évanoui, il avait dû peu à peu sentir sa grande résolution faiblir. Et d'après les pages qui vont suivre, les dernières de son journal, j'imagine qu'il dut un beau matin du début des vacances louer une bicyclette pour aller à Bourges visiter la cathédrale. Il était parti à la première heure par la belle route droite entre les bois, inventant en chemin mille prétextes à se présenter dignement, sans demander une réconciliation devant celle qu'il avait chassée. Les quatre dernières pages que j'ai pu reconstituer racontaient ce voyage et cette dernière faute. 25 août. De l'autre côté de Bourges, à l'extrémité des nouveaux faubourgs, il découvrit, après avoir longtemps cherché la maison de Valentine Blondeau, une femme, la mère de Valentine, sur le pas de la porte, semblait l'attendre. C'était une bonne figure de ménagère, lourde, fripée, mais belle encore. Elle le regardait venir avec curiosité, et lorsqu'il lui demanda si Mademoiselle Blondeau était ici, elle lui expliqua doucement, avec bienveillance, qu'elle s'était rentrée à Paris depuis le 15 août. « Elles m'ont défendu de dire où elles allaient, ajouta-t-elle, mais en écrivant à leur ancienne adresse, on fera suivre les lettres. » En revenant sur ses pas, sa bicyclette à la main, à travers le jardinet, il pensait « Elle est partie. Tout est fini comme je l'ai voulu. C'est moi qui l'ai forcée à cela. Je deviendrai certainement une fille perdue, disait-elle. Et c'est moi qui l'ai jetée là. C'est moi qui ai perdu la fiancée de Franz. » Et tout bas, il se répétait avec folie « Tant mieux, tant mieux. » Avec la certitude que c'était bien « tant pis », au contraire, et que sous les yeux de cette femme, avant d'arriver à la grille, il allait buter des deux pieds et tomber sur les genoux. Il ne pensa pas à déjeuner et s'arrêta dans un café où il écrivit longuement à Valentine, rien que pour crier, pour se délivrer du cri désespéré qui l'étouffait. Sa lettre répétait indéfiniment « Vous avez pu, vous avez pu. » Vous avez pu vous résigner à cela, vous avez pu vous perdre ainsi. » Près de lui, des officiers buvaient. L'un d'eux racontait bruyamment une histoire de femme qu'on entendait par bribes. « Je lui ai dit, vous devez bien me connaître, je fais la partie avec votre mari tous les soirs. » Les autres riaient et, détournant la tête, crachaient derrière les banquettes. Hâve et poussiéreux, Mône les regardait comme un mendiant. Il les imagina tenant Valentine sur leurs genoux. Longtemps, à bicyclette, il erra autour de la cathédrale, se disant obscurément « En somme, c'est pour la cathédrale que j'étais venu. » Au bout de toutes les rues, sur les places désertes, on la voyait monter énorme et indifférente. Ses rues étaient étroites et souillées comme les ruelles qui entourent les églises de village. Il y avait çà et là l'enseigne d'une maison louche, une lanterne rouge. Moon sentait sa douleur perdue dans ce quartier malpropre, vicieux, réfugié, comme aux anciens âges, sous les arcs boutants de la cathédrale. Il lui venait une crainte de paysan, une répulsion pour cette église de la ville, où tous les vices sont sculptés dans des cachettes, qui est bâtie entre les mauvais lieux et qui n'a pas de remède pour les plus dures douleurs de l'amour. » Deux filles vinrent à passer, se tenant par la taille et le regardant effrontément. Par dégoût ou par jeu, pour se venger de son amour ou pour l'abîmer, Mône les suivit lentement à bicyclette, et l'une d'elles, une misérable fille dont les rares cheveux blonds étaient tirés en arrière par un faux chignon, lui donna rendez-vous pour 6 heures au jardin de l'archevêché, le jardin où Franz, dans une de ses lettres, donner rendez-vous à la pauvre Valentine. Il ne dit pas non, sachant qu'à cette heure il aurait depuis longtemps quitté la ville. Et de sa fenêtre basse, dans la rue en pente, elle resta longtemps à lui faire des signes vagues. Il avait hâte de reprendre son chemin. Avant de partir, il ne put résister au morne désir de passer une dernière fois devant la maison de Valentine. Il regarda de tous ses yeux et put faire provision de tristesse. C'était une des dernières maisons du faubourg et la rue devenait une route à partir de cet endroit. En face, une sorte de terrain vague formait comme une petite place. Il n'y avait personne aux fenêtres, ni dans la cour, nulle part. Seul, le long du mur, traînaient deux gamins en guenilles. Une sale fille poudrée passa. C'est là que l'enfance de Valentine s'était écoulée, là qu'elle avait commencé à regarder le monde de ses yeux confiants et sages. Elle avait travaillé, cousu, derrière ses fenêtres. Et Franz s'était passé pour la voir, lui sourire, dans cette rue de Faubourg, mais maintenant, il n'y avait plus rien, plus rien. La triste soirée durait. Et Maud savait seulement que, quelque part, perdue, durant ce même après-midi, Valentine regardait passer dans son souvenir cette place morne où jamais elle ne viendrait plus. Le long voyage qu'il lui restait à faire pour rentrer devait être son dernier recours contre sa peine, sa dernière distraction forcée avant de s'y enfoncer tout entier. Il partit. Aux environs de la route, dans la vallée, de délicieuses maisons fermières entre les arbres, au bord de l'eau, montraient leurs pignons pointus garnis de treillis verts. Sans doute là-bas, sur les pelouses, des jeunes filles attentives parlaient de l'amour. On imaginait là-bas des âmes, de belles âmes. Mais pour Maud, à ce moment, il n'existait plus qu'un seul amour. Cet amour mal satisfait qu'on venait de souffleter si cruellement. Et la jeune fille, entre toutes qu'il eût dû protéger, sauvegarder, c'était justement celle-là qu'il venait d'envoyer à sa perte. Quelques lignes hâtives du journal m'apprenaient encore qu'il avait formé le projet de retrouver Valentine coûte que coûte avant qu'il fût trop tard. Une date, dans un coin de page, me faisait croire que c'était là ce long voyage pour lequel Madame Maud faisait des préparatifs lorsque j'étais venu à la Ferté d'Anguillon pour tout déranger. Dans la mairie abandonnée, Maud notait ses souvenirs et ses projets par un beau matin de la fin du mois d'août. Lorsque j'avais poussé la porte, elle lui avait apporté la grande nouvelle qu'il n'attendait plus. Il avait été repris, immobilisé par son ancienne aventure, sans oser rien faire ni rien avouer. Alors avait commencé le remords, le regret et la peine, tantôt étouffés, tantôt triomphants, jusqu'au jour des noces où le cri du bohémien dans les sapins lui avait théâtralement rappelé son premier serment de jeune homme. Sur ce même cahier de devoirs mensuels, il avait encore griffonné quelques mots, en hâte, à l'aube, avant de quitter avec sa permission, mais pour toujours, Yvonne de Galais, son épouse depuis la veille. Je pars. Il faudra bien que je retrouve la piste des deux bohémiens qui sont venus hier dans la sapinière et qui sont partis vers l'est à bicyclette. Je ne reviendrai près d'Yvonne que si je puis ramener avec moi et installer dans la maison de Franz, Franz et Valentine mariés. Ce manuscrit que j'avais commencé comme un journal secret et qui est devenu ma confession sera, si je ne reviens pas, la propriété de mon ami François Serel. Il avait dû glisser le cahier en hâte sous les autres, refermer à clé son ancienne petite malle d'étudiant et disparaître. Le temps passa. Je perdais l'espoir de revoir jamais mon compagnon, et de mornes jours s'écoulaient dans l'école paysanne, de tristes jours dans la maison déserte. Franz ne vint pas au rendez-vous que je lui avais fixé, et d'ailleurs, ma tante Moinelle ne savait plus depuis longtemps où habitait Valentine. La seule joie des Sablonnières, ce fut bientôt la petite fille qu'on avait pu sauver. À la fin de septembre, elle s'annonçait même comme une solide et jolie petite fille. Elle allait avoir un an. Cramponnée aux barreaux des chaises, elle les poussait toute seule, s'essayant à marcher sans prendre garde aux chutes, et faisait un tintamarre qui réveillait longuement les échos sourds de la demeure abandonnée. Lorsque je la tenais dans mes bras, elle ne souffrait jamais que je lui donne un baiser. Elle avait une façon sauvage et charmante en même temps de frétiller et de me repousser la figure avec sa petite main ouverte en riant aux éclats. De toute sa gaieté, de toute sa violence enfantine, on eût dit qu'elle allait chasser le chagrin qui pesait sur la maison depuis sa naissance. Je me disais parfois, sans doute, malgré cette sauvagerie, sera-t-elle un peu mon enfant ? Mais une fois encore, la Providence en décida autrement. Un dimanche matin de la fin septembre, je m'étais levé de fort bonne heure avant même la paysanne qui avait la garde de la petite fille. Je devais aller pêcher au Cher avec deux hommes de Saint-Benoît et Jasmin de Louche. Souvent, ainsi, les villageois d'alentour s'entendaient avec moi pour de grandes parties de braconnage. Pêche à la main la nuit, pêche aux éperviers prohibés. Tout le temps de l'été, nous partions les jours de congé dès l'aube et nous ne rentrions qu'à midi. C'était le gagne-pain de presque tous ces hommes. Quant à moi, c'était mon seul passe-temps. Les seules aventures qui me rappelassent les équipés de jadis. Et j'avais fini par prendre goût à ces randonnées, à ces longues pêches le long de la rivière ou dans les roseaux de l'étang. Ce matin-là, j'étais donc debout, à 5h30, devant la maison, sous un petit hangar adossé au mur qui séparait le jardin anglais des sablonnières du jardin potager de la ferme. J'étais occupé à démêler mes filets que j'avais jetés en tas le jeudi d'avant. Il ne faisait pas jour tout à fait. C'était le crépuscule d'un beau matin de septembre, et le hangar où je démêlais à la hâte mes engins se trouvait à demi plongé dans la nuit. J'étais là, silencieux et affairé, lorsque soudain j'entendis la grille s'ouvrir et un pas crier sur le gravier. « Oh oh !» me dis-je. « Voici mes gens plus tôt que je n'aurais cru, et moi qui ne suis pas prêt. » Mais l'homme qui entrait dans la cour m'était inconnu. C'était autant que je pus distinguer un grand gaillard barbu habillé comme un chasseur ou un braconnier. Au lieu de venir me trouver là où les autres savaient que j'étais toujours à l'heure de nos rendez-vous, il gagna directement la porte d'entrée. « Bon, pensais-je, c'est quelqu'un de leurs amis qu'ils auraient convié sans me le dire et qu'ils auront envoyé en éclaireur. » L'homme fit jouer doucement, sans bruit, le loquet de la porte. Mais je l'avais refermé aussitôt sorti. Il fit de même à l'entrée de la cuisine, puis, hésitant un instant, il tourna vers moi, éclairé par le demi-jour, sa figure inquiète. Et c'est alors seulement que je reconnus le grand Mône. Un moment, je restai là, effrayé, désespéré, repris soudain par toute la douleur qu'avait réveillé son retour. Il avait disparu derrière la maison, on avait fait le tour et il revenait hésitant. Alors je m'avançai vers lui et sans rien dire, je l'embrassai en sanglotant. Tout de suite, il comprit. « Ah ! » dit-il d'une voix brève, « elle est morte, n'est-ce pas ?» Et il resta là, debout, sourd, immobile et terrible. Je le pris par le bras et doucement, je l'entraînai vers la maison. Il faisait jour, maintenant. Tout de suite, pour que le plus dur fût accompli, je lui fis monter l'escalier qui menait vers la chambre de la morte. Sitôt entré, il tomba à deux genoux devant le lit et longtemps resta la tête enfouie dans ses deux bras. Il se releva enfin, les yeux égarés, titubants, ne sachant où il était. Et toujours le guidant par le bras, j'ouvris la porte qui faisait communiquer cette chambre avec celle de la petite fille. Elle s'était réveillée toute seule, pendant que la nourrice était en bas, et délibérément s'était assise dans son berceau. On voyait tout juste sa tête, étonnée, tournée vers nous. « Voici ta fille, » dis-je. Il eut un sursaut et me regarda. Puis il la saisit et l'enleva dans ses bras. Il ne put pas bien la voir d'abord parce qu'il pleurait alors. Pour détourner un peu ce grand attendrissement et ce flot de larmes, tout en la tenant très serrée contre lui, assise sur son bras droit, il tourna vers moi sa tête baissée et me dit « Je les ai ramenés, les deux autres. Tu iras les voir dans leur maison. » Et en effet, au début de la matinée, lorsque je m'en allais tout pensif et presque heureux vers la maison de Franz, qui von de Galais m'avait montré jadis déserte, j'aperçus de loin une manière de jeune ménagère en collerette qui balayait le pas de la maison. Objet de curiosité et d'enthousiasme pour plusieurs petits vachers endimanchés qui s'en allaient à la messe. Cependant, la petite fille commençait à s'ennuyer d'être serrée ainsi, et comme Augustin, la tête penchée de côté, pour cacher et arrêter ses larmes, continuait à ne pas la regarder, elle lui flanqua une grande tape de sa petite main sur sa bouche barbue et mouillée. Cette fois, le père leva bien haut sa fille. La fit sauter au bout de ses bras et la regarda avec une espèce de rire. Satisfaite, elle battit des mains. Je m'étais légèrement reculé pour mieux les voir. Un peu déçu et pourtant émerveillé, je comprenais que la petite fille avait enfin trouvé là le compagnon qu'elle attendait obscurément. La seule joie que m'eût laissé le grand Maune, je sentais bien qu'il était revenu pour me la prendre. Et déjà, je l'imaginais, la nuit, enveloppant sa fille dans un manteau et partant avec elle pour de nouvelles aventures.
Farewell, Angelina, the bells of the crown are being stolen by bandits. I must follow the sound. The triangle tingles and the trumpets play slow. But farewell, Angelina, the sky is on fire and I must go. There's no need for anger, there's no need for blame. There's nothing to prove. Everything's still the same. Just a table standing empty by the edge of the sea means farewell, Angelina. The sky is trembling and I must leave. The Jack and the Queen have forsaken the courtyard. 52 gypsies now file past the guards. In the space where the deuce and the ace once ran wild. Farewell, Angelina, the sky is falling. I'll see you in a while. See the cross-eyed pirate sit perched in the sun. Shooting tin cans with a sawed-off shotgun. And the neighbors, they clap and they cheer with each blast. But farewell, Angelina, the sky's changing color and I must leave fast.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Voilà, nous avons terminé pour cette semaine la lecture du Grand Maune de Alain Fournier pour arriver à la fin de l'histoire. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guillon et vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.